Fragment d'art sur Radio Gameuse avec nous.
Fragile persistance de Laurence Aélion pour l'Arbus qui circulera à travers les Vosges du 6 novembre 2025 au 11 juin 2026. L'Arbus, mais Kézako. Nous voici donc avec Paul Dubot, médiateur au sein de la Lune en parachute, pour nous en raconter un peu plus. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors raconte-nous un petit peu l'histoire de l'Arbus.
Alors l'Arbus, c'est un bus qui a été aménagé en galerie nomade et mobile. C'est un dispositif qui est porté par la Lune en parachute depuis 2006. Donc on va fêter cette année sa 20e tournée dans le département des Vosges, parce que le but, c'est de ramener l'art aux personnes qui en sont le plus éloignées. Et pour ça, vraiment, avoir une galerie mobile qui est investie chaque année par un ou une artiste et qui va se rendre une semaine dans chaque endroit. Je crois que pour cette édition, on a 17 endroits de stationnement tout au long de l'année, entre novembre et juin.
Tu as dit que l'enjeu, c'est de rapporter de la culture et de l'accessibilité à l'art dans des zones éloignées. Est-ce que justement ce projet, bon, ça fait 20 ans, presque 20 ans qu'il existe, donc j'imagine que j'ai déjà la réponse à ma question, mais la réception est-elle bonne?
Alors oui, absolument. C'est vraiment un projet phare qui est demandé par notre association. À chaque fois, les gens connaissent ou ont vu l'Arbus, et c'est vrai que le fait qu'il se déplace, ça permet de toucher énormément de choses, surtout qu'il est plutôt reconnaissable parce que c'est un bus avec des grosses écritures dessus et les gens le repèrent de loin. Il est très demandé. Nous, on fait un appel à projet chaque année pour les établissements qui voudraient être candidats, et à chaque fois on est complet, quoi. Ouais. Le choix des établissements, c'est toujours un peu aussi un casse-tête logistique, parce qu'on essaye de limiter le déplacement, ou en tout cas que ça ait du sens, parce que c'est quand même beaucoup beaucoup de logistique. Il faut qu'il y ait un chauffeur qui soit habilité, il faut que les déplacements soient pas à droite à gauche dans le département, il faut que ça ait une certaine cohérence. Et donc oui, voilà, c'est toujours un petit casse-tête, mais en tout cas on n'a pas de problème pour remplir l'agenda.
Vu que c'est du 6 novembre au 11 juin, j'imagine que ça occupe toute l'année scolaire ou presque.
En fait, le bus stationne vraiment une semaine par établissement candidat, mais on essaye depuis cette année à ce que les établissements puissent se mettre en lien avec tous les publics désireux de visiter l'Arbus, en lien avec les mairies, les associations locales, et qu'ils puissent trouver un moment pour que le bus puisse s'ouvrir, pas uniquement aux scolaires, mais vraiment au grand public. Et cette année aussi, en particulier sur les vacances scolaires, le bus n'arrête pas sa tournée et il va visiter d'autres types de partenaires. Ça peut être des quartiers prioritaires, ça peut être des associations, ça peut être... voilà. On essaye aussi à ce qu'il puisse ne pas y avoir de temps mort avec cette exposition et profiter de cette chance pour tout le monde et partout.
Exactement, comme tu le disais, pour tout le monde, ce n'est pas parce que ça se délimite à la période scolaire que ça n'est adressé qu'aux scolaires, qu'aux enfants.
Oui, oui, on a effectivement monté des dossiers pour que y ait un suivi pédagogique, mais évidemment, qui dit pédagogique dit pas forcément scolaire, ça peut être ouvert évidemment à tout type de public et c'est vraiment notre volonté.
Tu m'as dit que le bus va stationner auprès de 17 établissements scolaires. Est-ce que tu peux donner aux auditeurs la liste justement de tous ces établissements?
Alors, je peux pas donner la liste précise, mais je peux donner les villes et les villages qui vont l'accueillir. Et donc, alors c'est pas dans l'ordre, mais il y aura une station à Épinal, plusieurs d'ailleurs. Il y a Éloy, Rupt-sur-Moselle, Vanier, Le Tolly, Cornimont, Corcieux, Raon-l'Étape, Thaon-les-Vosges, Mirecourt, Châtenois, Neufchâteau, Liffol-le-Grand, Contrexéville et La Vosges-les-Bains et Adol.
Ça fait quand même un beau et grand tour à travers les Vosges, du moins du nord au sud et d'est en ouest. Et donc dans ce cas, Paul, qu'est-ce qu'on te souhaite ou qu'est-ce qu'on souhaite à la Lune en parachute pour cette exposition de l'Arbus ?
qu'elle puisse suivre son parcours sans de difficultés et que les élèves et tout le public puissent rencontrer l'œuvre comme il faut. Parce qu'effectivement, une tournée de plus de 6 mois, c'est quand même un gros projet. Moi, je voulais juste finir en remerciant quand même les partenaires qui rendent ce projet possible et faisable, parce que c'est, comme je disais, une grosse logistique et beaucoup d'argent. Et donc voilà, on les remercie vraiment chaudement de nous aider à mettre ça au point.
Eh bien, merci beaucoup, Paul, de m'avoir accordé ces quelques instants.
Merci à vous, à bientôt.
En déambulant dans l'Arbus, je me retrouve face à une installation, mélange intrigant entre mini-forêts de champignons et récifs coralliens en matériaux de récupération de couleurs vertes. Cette œuvre m'attire, cette œuvre m'intrigue. Née de la main de Laurence Aélion, qui de mieux que l'artiste elle-même pour nous éclairer ? Bonjour Laurence.
Bonjour.
J'aimerais avant tout parler de ton parcours. Quel chemin de vie as-tu tracé pour te mener jusqu'ici ?
Alors moi j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses et j'ai beaucoup travaillé dans le milieu socio-culturel. Et ça a bifurqué assez facilement et naturellement vers les arts plastiques puisque j'ai fait aussi pas mal d'ateliers. Et puis je suis allée dans d'autres domaines, enfin, j'ai beaucoup navigué, mais l'art a toujours fait partie de mon travail à chaque nouvelle expérience. Et il se trouve qu'à un moment donné, c'était la bonne période pour moi pour bifurquer en 100% dans la réflexion artistique, dont la mise en place au niveau du temps, parce qu'on a toujours besoin de temps pour pouvoir se poser et de vide pour pouvoir créer. Et là, c'était le moment. Ça fait maintenant quelques années que je me consacre vraiment qu'à ça. Et puis d'expérience en expérience, effectivement, je suis ravie de développer mes propositions et mes intentions.
Tu t'es forgé avec le temps, avec ta patte, avec ton style assez unique. En effet, tu utilises du plastique comme matériau de récupération et pas n'importe comment, vu que tu l'utilises sous toutes ses formes. Qu'est-ce qui t'a mené à choisir le plastique très précisément ?
Alors, je pense que c'est analysé après parce que c'était très instinctif à la base. J'ai fait beaucoup d'ateliers pédagogiques où j'avais besoin de parler d'écologie, de sensibilité, mais sans rentrer dans un discours pessimiste, alarmiste, etc. Donc j'ai commencé par travailler beaucoup les bouchons, bouteilles de shampoing, et en fait il se trouve que en utilisant une, puis deux, puis trois, puis 10, on se rend compte qu'il y a un camaïeu assez incroyable. Enfin, ça, il y a autant de transparent que de nacre, c'est une richesse assez exceptionnelle. Donc j'ai beaucoup développé le travail de la matière par les bouteilles d'abord. Et puis sont venus les filets sur mon chemin. Et c'est pareil, en faisant des recherches, en prenant le temps, cette matière, elle devient, le plastique se rétracte et devient, il n'est plus inerte, il devient tout à fait organique. Si on le guide, peut-être un peu. Donc voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit. Et puis, en voulant développer un travail un peu plus imposant, un peu plus grand, je me suis retrouvée à faire quelque chose qui s'apparente à de la tapisserie. Et donc, voilà, à la base, il n'y a vraiment pas cette... Alors, j'ai cette volonté de transformer le plastique parce que c'est un déchet... on le sait, qui est une catastrophe partout, pour tout. Mais j'ai surtout aussi cette volonté de donner un paysage qui donne envie de rêver, qui donne envie d'imaginer quelque chose, qui peut être aussi effrayant qu'attirant et qui ne soit pas juste un constat alarmiste, quoi.
Tu disais que tu pars d'un matériau inerte pour en faire quelque chose, on va dire, d'un peu plus vivant. Justement, j'aimerais savoir comment concrètement tu travailles le plastique, car il est sous différentes formes, des bouchons, des filets d'oignons. Alors, comment est-ce que tu le travailles ?
Alors, sans donner tous mes secrets de fabrication, effectivement, c'est souvent thermoformé. Il y a beaucoup de découpes, je détisse, parce que là, tous ces travaux sont des filets, des trames de filets qui ressemblent à des trames de tissu. Donc, soit tricotées, soit tissées. Donc, je détisse, je retisse et je recrée avec la matière que j'ai.
Ta démarche artistique n'est pas due au hasard, hein. C'est un message très fort, un cri envoyé par les tréfonds de ta terre natale. En effet, tu es réunionnaise. Il me semble justement que cette expérience à La Réunion, entre le moment où tu y as grandi et quand tu y es retournée adulte avec tes enfants, a eu un certain impact aussi sur ta création artistique.
Oui, effectivement, ça fait partie... Ça fait partie des passages pour moi qui ont fait évoluer mon travail dans le sens où je pense que ce retour à La Réunion m'a fait travailler vraiment, bah, notamment concrètement le filet et concrètement de façon comme une tapisserie et avec des formes qui deviennent vraiment, qui ressemblent en tout cas à du corail. Mmh. Donc voilà, il y avait ce lien qui s'est créé par la force des choses.
Oui, parce qu'en faisant un petit tour sur ton site internet, j'ai vu que tes créations sont un peu comme un entrelac magmatique de champignons, de coraux et autres formes végétales de plastique qui semblent s'étendre comme d'immenses tentacules. Cet aspect vivant et qui est en train de s'étendre, est-ce que c'est voulu ?
Tout à fait. Et c'est vraiment dans absolument tout mon travail. Ça se fait naturellement. J'ai difficilement d'autres explications, mais c'est quelque chose que je veux, en fait. C'est une façon de dénoncer quelque part, mais ça doit être une troisième lecture. C'est vraiment, si on a envie d'aller plus loin et de se plonger dans l'œuvre et de rester dans l'observation et qu'on arrive à le ressentir, je suis ravie. C'est vraiment ce que je veux transmettre. Je veux pas que ça soit alarmiste et effrayant. Il y a vraiment cette petite poésie. Et puis, il y a une forme de résilience, en fait. Ça envahit. Et là, il se passe quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est pas si négatif. On sait bien ce qu'est le plastique. Mais peut-être qu'on peut faire de la poésie. Je sais pas. Il y a quelque chose à créer.
De la poésie et essayer de faire quelque chose de pas trop négatif, dirons-nous. Certaines personnes ont pris en photo des choses assez spectaculaires, assez inattendues. En effet, il y a certains déchets plastiques qui se retrouvent dans la mer et dans laquelle, au bout d'un moment, un écosystème avec des plantes et des animaux se crée. T'étais au courant de ça ?
Oui, j'en avais entendu parler. C'est toujours très compliqué. En tout cas, intérieurement, pour moi, c'est toujours très compliqué. C'est une utopie peut-être, un rêve de se dire que finalement, on va pouvoir faire quelque chose de vraiment vivant. Je pense qu'il faut pouvoir voir du beau et pouvoir sortir de cette morosité ambiante qui peut vite se créer. Et voilà, des fois, il ne faut pas que je réfléchisse trop, sinon ça me met mal, hein, tout simplement. Il y a une forme de catharsis dans mon travail, j'évacue des choses personnelles, effectivement en utilisant ce plastique, mais c'est très compliqué.
J'imagine l'éco-anxiété est un phénomène quand même assez grandissant dans la jeune génération et j'imagine aussi génération après qui est très consciente du monde qui nous entoure, comme tu le disais. C'est une catharsis, ça te permet d'évacuer ses pensées, de t'évader et de sublimer quelque chose qui peut, au fond, être la source d'une anxiété. Il y a aussi une série d'œuvres qui m'a intriguée, des fleurs ou coraux sous cloche, parce qu'à l'instar de la rose du Petit Prince qui, elle, est fragile, tu as mis justement sous cloche en verre des coraux de plastique, un matériau bien loin d'être fragile et assez destructeur. Quel est le message derrière cette création ? Très poétique, je puis dire.
Ah, merci beaucoup, ça me touche. Mais ça, c'était mes premiers travaux... J'avais besoin de mettre sous un globe d'antiquaire ces récifs de plastique comme un cabinet de curiosité ou comme le message. Je pense que en fait à chacun de développer ce qu'il a envie, parce que je veux pas donner de message, même dans tout mon travail en général. J'aime que les gens puissent réagir en liberté. Mais oui, ça me touche que tu parles de ça. En plus, c'est des globes d'antiquaire que je vais chiner. Je prends le temps de chercher. Enfin, ce sont des bois anciens, ils ne tiennent pas debout des fois. Il faut que je rajoute un petit... Ben, que je refasse une petite restauration sur les globes. Et puis oui, le globe met en avant cette matière qui aujourd'hui est très actuelle, mais qui peut-être un jour sera comme les reliques.
Et si on en venait maintenant à l'Arbus ? Comme je le disais, c'est peut-être un cri de la terre, ou en tout cas c'est la lecture que j'en fais, ta démarche artistique, un cri de la terre et de ton cœur d'enfant aussi, ou du moins d'après ce que j'ai lu en cherchant un petit peu sur internet, mais ce n'est que ma lecture qui m'est propre. Tu proposes des formes de corail de couleur verte. Encore une fois, qu'est-ce qui t'a mené à créer cette installation comme ça sur les bords du bus?
Alors là, moi j'avais envie que ça ressemble à quelque chose d'animal comme à quelque chose de végétal. Ça pourrait être des racines, ça peut être des champignons. J'ai cette image du blob qui se développe. Et donc après, le plus gros du travail a été in situ, c'est-à-dire de voir l'espace. En fait, on prépare effectivement beaucoup de choses, mais tant qu'on n'est pas dans l'espace à proprement dit, c'est difficile de se projeter. Et quand on est dans l'espace, on découvre des choses qu'on avait envisagées, mais voilà, ça devient vraiment concret. Donc là, mes formes, comme de la dentelle, viennent sortir des interstices du bus, pas du tout, presque brutes quand elles sortent, et se forment au fur et à mesure et semblent progresser à l'intérieur du bus. Voilà, il n'y a pas de... Je ne veux pas mettre de mots précis dessus. Je pense que j'ai cette envie que chacun se fasse son idée. Donc c'est difficile de ne pas trop dire pour ne pas trop orienter. Mais j'ai envie de me dire que les visiteurs auront le temps de se poser dans l'espace et d'imaginer ce qu'ils ont envie.
Les artistes de la Lune en parachute sont recrutés via des appels à projets et tu as postulé à cet appel à projet. Quelle était l'idée derrière à la base ?
Mais le fait que en fait, ça passe dans les zones rurales, dans les établissements, qu'il y a un lien avec les profs et que ça vienne au cœur des établissements. C'est vraiment quelque chose qui m'a touchée et apparemment, effectivement, ils développent les choses pour que ça aille en zone d'éducation prioritaire. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le socioculturel, comme je te disais. Et ouvrir l'art à tous, je pense que c'est quelque chose de primordial, d'important, et en tout cas je le fais pour ça, je le fais dans ce sens, je postule à je fais pas mal de parcours, donc j'ai deux pièces, trois pièces qui sont actuellement en extérieur, du côté en Normandie, près de Lyon, et la troisième en Charente. Et il y a cette idée de dire que le travail artistique ne se contente pas qu'au musée et que la lecture n'est pas forcément intellectuelle, elle peut être juste sensible et ressentie et ça suffit. Mais il n'y a pas besoin forcément d'être préparé. Donc là il y a une vraie volonté pédagogique. Et ça fait partie effectivement des choses auxquelles je fais attention. Je fais pas mal d'ateliers pédagogiques aussi à côté de mes actions, de mes expositions. Et donc voilà, c'est un honneur pour moi d'avoir un travail qui devient un support pédagogique pour des structures.
L'Arbus, justement, comme tu le disais, c'est amener un petit peu l'art dans les zones rurales, apporter une certaine lecture ou apporter quelque chose de sensible à la jeunesse des milieux plus éloignés que les zones urbaines. Ça t'apporte aussi une autre dimension par rapport justement à la différence entre milieu rural et milieu urbain.
Oui, alors ce qui est sûr avec l'Arbus, c'est que en allant comme ça au plus près des gens, il n'y a pas cette difficulté à ouvrir la porte d'un musée parce qu'on peut s'y sentir éloigné, pas concerné, peu importe la raison. Et effectivement, c'est quelque chose que je vois. Moi, j'habite aussi en zone rurale. Et le rapport, mes enfants, forcément, un rapport à l'art parce que je suis dedans. Mais je comprends que d'autres enfants ou d'autres familles n'ont pas ni l'habitude, ni l'envie. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est très distant parce que qu'on croit qu'il y a une forme d'élitisme dans l'art, alors que je pense qu'il ne faut pas, même si c'est voilà, l'Arbus pour moi c'est vraiment un dispositif qui casse un peu cette image artistique un peu fermée Ils ont le bus pour eux, ils ont la chance de pouvoir avoir les professeurs qui les accompagnent, qui vont peut-être orienter par rapport à leurs cours et leurs programmes. Je trouve ça super, s'il peut y avoir des liens et des ponts entre les disciplines, bien au contraire, c'est un plus, mais je le fais aussi artistiquement, j'aime ça. Donc voilà, là c'est... C'est peut-être des fois plus facile de rentrer dans un bus qui est au bas du collège et au bas des immeubles ou au bas des maisons dans des quartiers où, oui, si tu dois faire une demi-heure pour aller au musée, parfois, en termes de temps, d'organisation, c'est peut-être compliqué.
Qu'est-ce qu'on te souhaite alors pour cette exposition Fragile Persistance ?
J'espère avoir... Alors, je vais laisser un livre d'or avec des petits crayons et j'espère avoir des retours. Voilà, sur ce que les gens ont ressenti.
Merci Laurence de m'avoir accordé quelques minutes.
Merci beaucoup à toi.
Fragile Persistance de Laurence Aélion transforme des filets plastiques récupérés en une œuvre immersive où le rebut devient matière poétique. Dans l'espace du bus, cette installation met en lumière la beauté fragile du vivant et questionne notre rapport à ce qui détruit comme à ce qui peut réparer. Le bus devient ainsi un laboratoire sensible où l'on redécouvre la capacité du vivant à persister et à renaître là où on ne l'attend pas. L'installation est à découvrir de novembre 2025 à juin 2026 dans l'Arbus de la Lune en parachute. Le vernissage a lieu ce soir, vendredi 26 septembre à 17h. Donc c'est le moment de célébrer auprès d'artistes et de la Lune en parachute l'exposition Fragile Persistance de Laurence Aélion.
Fragmentaire sur Radio Gémozo.